ゴーゴーラレビューディープレスジベイ。
Bonjour à toutes et tous, ou bonsoir, hein, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast hebdomadaire qui vous donne le meilleur de l'info jeux vidéo. J'espère que vous allez bien en cette période toujours assez compliquée, et au moment où je vous parle, on ne sait pas trop où on va. À chaque jour, son de cloche. En tout cas, vous êtes là pour passer un bon moment, un bon gros moment JV. Et avant toute chose, vous le savez, si vous me suivez sur Twitter, @revuedepressejv, tout collé, le compte Twitter des champions, vous le savez. Je vous ai promis un code Steam à gagner cette semaine, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un code Steam Street of Rage 4. Et oui, le retour du beat'em up légendaire de Sega. Et franchement, avec le boulot de Lizard Cube, de Temu, Guard Crush, c'est exceptionnel. On a fait une vidéo avec mon épousée Natacha. Le lien sera dans la description de cette émission. On vous présente le jeu et vraiment, on a été hyper conquis. Et donc, vous pouvez gagner une clé Steam. Mais pour cela, on va prendre notre temps. Une question vous sera posée dans cette émission. Et il faudra y répondre par MP, alors vous savez, ou par DM comme on dit. Les DM sont ouverts sur le compte Twitter de l'émission. Pas besoin de RT, pas besoin de follow, non, vous le savez. Il faudra m'envoyer la réponse en DM. Les bonnes réponses seront toutes collectées, bien sûr. Tirage au sort avec petit screenshot qui fait foi, et donc lundi prochain dans l'émission, j'annoncerai le nom du vainqueur. Donc un code Steam Street of Rage 4, une question qui va être posée dans l'émission, restez sur le coup. Et avant toute chose, je vous propose d'attaquer avec la traditionnelle brochette de news. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Le nouvel Assassin's Creed a été dévoilé. Assassin's Creed Valhalla. Bonjour messieurs les Vikings. Et donc jeuxvideo.com nous dit que cet épisode donc invitera les joueurs à incarner un féroce guerrier viking nourri dès le plus jeune âge par des contes de bataille et de gloire. Il s'appelle Eivor, ce guerrier. Au cœur des âges sombres et chassé de la Norvège par des guerres sans fin, son clan traverserait la mer du Nord glaciale vers les terres de l'Angleterre. Les Vikings devront alors faire face à la résistance des Saxons. Au cours de cette aventure brutale, les alliances politiques, les combats menés et les choix de dialogue pourront influencer le reste du récit. Voilà, le nouveau Assassin's Creed est là. Vous pourrez choisir un protagoniste masculin ou féminin. Il y a tout un teasing à base de Photoshop évolutif comme ça qui a eu lieu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de cela. Donc les fans sont en émoi. Ce volet, nous dit jeuxvideo.com, inclura de nouvelles fonctionnalités comprenant des raids à mener dans certains villages, la construction et la croissance de votre colonie, ainsi que l'expansion de votre pouvoir et de votre influence dans un immense monde ouvert et dynamique. Donc personnalisation de personnages, vous pourrez choisir donc un personnage féminin ou masculin, vous pourrez personnaliser les cheveux, les tatouages, les peintures de guerre, l'équipement, bref, comme vous voulez. Il y aura un tout nouveau système de combat, ça c'est très important, incluant la possibilité de se battre avec deux armes en même temps contre la plus grande variété d'ennemis, nous dit-on, jamais créée dans la saga. Et oui, c'est fabuleux. Donc Assassin's Creed Valhalla sortira en fin d'année 2020, on n'a pas plus de précision que cela, sur PC bien sûr. Alors sur PC ce sera exclu à l'Epic Game Store et le store Ubisoft, voilà. PS4 bien sûr, Xbox One, mais également PS5 et Xbox Series X, oui car ça arrive. Sans oublier, je suis sûr que vous vous en foutez un petit peu, mais enfin je le signale quand même, Google Stadia. Bref, il sera accessible aux abonnés aussi du service Uplay Plus. Je vous mettrai, comme d'habitude, dans la description de l'émission, le lien de la news jv.com qui liste un peu toutes les éditions collector, puisqu'il ne se fait pas une annonce sans ces éditions collector. Et donc, pour les amoureux de ce genre de produit, il y a de quoi vraiment s'en mettre plein la margoulette. Donc, hop, tout ça, c'est dans le lien. N'hésitez pas à aller voir ça. Et donc, on souhaite bonne chance à ce nouvel Assassin's Creed qui est effectivement un décorum très, très affriolant. Encore un petit peu de temps. Deux salles, deux ambiances. Là, on va du côté de chez Gamecult, qui nous dit que Square Enix a dévoilé quelques détails supplémentaires sur le remaster de Nier Replicant. Vous savez, si vous me suivez, à quel point je suis fan de Nier Automata, de la saga Nier, vous savez, Nier Replicant, c'est le premier épisode qui donc se voit remasterisé. Et donc dans les pages de l'hebdomadaire Famitsu, le réalisateur, le génie Yoko Taro, a donné quelques nouveaux éléments. Et donc selon les informations transmises dans le magazine, Yoko Taro a révélé, nous dit GameCult, que la mise en scène du jeu, plus spécifiquement l'utilisation de la caméra durant les cinématiques, restera fidèle au titre sorti en 2010. Oui, en 2010, sur 360 et PS3. Donc c'est notamment pour cela que Square Enix ne qualifie pas ce nouveau Nier Replicant de remake, malgré toutes les nouvelles touches et améliorations qui en font aussi plus qu'un remaster. Donc on est entre le remaster et le remake. Ça me rappelle un petit peu une des grandes revues de presse JV, disponible sur ce flux, où avec les tipeurs, nous avons débattu sur ce qu'était un remake. Donc là, on est vraiment en plein dans ce débat-là. Bref, la news nous dit que l'un des plus grands changements concerne le système de combat, et ça c'est une grande nouvelle, puisque le système de combat de l'original n'était pas si pato que certains le disaient, mais effectivement à côté de la maestria de Platinum Games en la matière pour Nier Automata, bonne nouvelle, puisque Takahisa Taora, le concepteur en chef de Nier Automata, sera là pour justement épauler le développement et s'occuper, superviser le système de combat. Donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. Concernant le chapitre musical ô combien important, nous précise GameCult et à juste titre, il faut s'attendre, nous dit la news, à découvrir des compositions inédites, alors ça déjà c'est génial, mais aussi de nouveaux enregistrements de meilleure qualité des chansons déjà présentes dans le jeu original. Sur la demande donc de Yoko Taro, le compositeur Keiichi Okabe a même indiqué que la durée de certaines chansons a été allongée. Bref, ce Nier réplique en version 1.2.2.4.4, vous savez, le titre est complètement fou, à l'image de son créateur, ce sera disponible cette année sans plus de précision sur PS4, One et PC. Petite précision concernant le jeu mobile Nier Réincarnation. On a pu voir un petit semblant de gameplay, des vidéos ont tourné. Yoko Taro et son compère, Yosuke Saito, se sont contentés donc de confirmer que la protagoniste n'est pas Kaine, Kaine qui était un personnage phare de Nier Replicante, et que le petit fantôme qui accompagne donc ce personnage féminin dans Nier Réincarnation est une figure maternelle qui s'appelle donc Mama. Voilà, on apprend aussi que ce titre, toujours pas annoncé en dehors des terres japonaises, mettra en scène d'autres protagonistes, bien sûr. Comptez sur moi, bien évidemment, pour vous en dire plus dès qu'on aura un peu plus d'infos à se mettre sous la quenotte. On va parler des deux dernières grosses exclus PS4, oui, qui vont sortir là quand même très prochainement, à savoir donc The Last of Us Part 2, donc ça c'est calé maintenant au 19 juin, et Ghost of Tsushima de Sucker Punch, que j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, pas autant que The Last of Us Part 2, mais j'aime beaucoup Sucker Punch, donc et Ghost of Tsushima me fait vraiment de l'œil depuis son annonce. Bref, ce dernier a été décalé au 17 juillet 2020, voilà, pour pas que ça se télescope trop. Report de The Last of Us, donc Ghost of Tsushima, hop, est un petit peu repoussé. Mais vous savez, c'est incontournable, je dois vous en parler, tous ces leaks, ces fuites venant de The Last of Us par 2, qui ont dévoilé la totalité du scénario, y compris dénouement. Alors, comme je l'avais dit sur Twitter, au moment où c'est tombé, moi je n'étais pas au courant pour les leaks, il a fallu que ce soit lors d'une pause café, en pleine journée de travail, où je vois entêté, donc sur Twitter, je vois The Last of Us Part 2, je me dis, chouette, des nouvelles infos, peut-être sur la date de sortie, sur un élément X ou Y. Bon, je clique sur le hashtag, et quel ne fut pas mon malheur, le premier tweet que je vois, c'est quelqu'un qui est tombé sur ce leak, et qui, voilà, qui annonçait de rage avoir découvert ça et ça dans ce leak, et du coup, de facto, moi je l'ai découvert aussi, sans avoir le temps de fermer les yeux. Donc, il se peut que si cette info-là se révèle exacte, qu'on m'ait spoilé ce qui se passe à la fin du jeu. Voilà, vous savez que je suis très fan de Naughty Dog, très fan de The Last of Us. Bon, on m'a, à 90% de chance, on m'a spoilé totalement la fin. Comme on dit, c'est le voyage qui compte, bien sûr, mais bon, voilà, ça m'empêchera pas de profiter pleinement du jeu. Mais je vous l'avoue que je l'avais un peu mauvaise. Bon, GamerGen nous dit que Naughty Dog, donc en ayant pris connaissance de l'affaire, a réagi, donc là il y a quelques jours, avec un communiqué laconique, et surtout, même Sony a réagi, puisqu'il s'était dit ici et là que c'était un employé, un ancien employé de Naughty Dog, qui voulait se venger en raison de la culture de Crunch, qui pourrit effectivement le studio, comme tant d'autres, hélas. Donc ça, c'était la rumeur qui courait. Et même Sony, en fait, s'est fendu d'un communiqué, nous précise GamerGen, dans lequel il précise que les personnes derrière les leaks ne sont ni lié à Sony, ni à Naughty Dog. Hein. Apparemment, Sony a identifié les principales personnes responsables donc de ce leak, et donc ils ne sont pas affiliés à l'entreprise, ni au studio derrière The Last of Us Part 2. On va aller sur le mag d'Emo5, mag.emo5.com, les copains d'Emo5 que je salue. Et c'est Guillaume Verdun qui nous rapporte une news assez intéressante. Cette news donc nous rappelle que le 7 avril dernier, sous la pression, le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'était résolu à déclarer l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie du Covid-19, du moins dans les 7 villes et départements les plus touchés par le virus, avant d'étendre la mesure à l'ensemble du pays, donc la semaine suivante. Cela signifie, nous dit la news, qu'à l'instar de ce qui se passe donc chez nous, les écoles donc ont été fermées, et il semblerait hélas que les enfants japonais préfèrent jouer dehors plutôt que rester confinés. Et donc l'association Retro Gaming JARGA, donc J-A-R-G-A, pour Japan Retro Game Association, donc cette association a décidé de participer à l'effort collectif en faisant un don d'une centaine de Super Famicom, donc la Super Nintendo japonaise, console légendaire s'il en est, donc une centaine de Super Famicom accompagnée de Donkey Kong Country, qui s'appelle Super Donkey Kong au Japon, et le jeu de la vie Final Fantasy VI. Absolument incroyable. Et donc pour y avoir droit, il faut que le foyer compte au moins un enfant de moins de 16 ans, et il faut prendre en charge bien sûr les frais de port. Ce don peut paraître une contribution bien mince, nous dit Guillaume sur sa news, par rapport à l'ampleur de l'épidémie, mais c'est quand même un très très beau geste, et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment assez cool. Il nous dit, je cite, « Si vous vous demandez ce qu'attend MO5.com pour en faire autant, bien que nous disposions de certaines machines en grande quantité, nous n'avons pas le stock pour faire un tel don, d'autant qu'on imagine que donc l'association donc japonaise JARGA en possède bien davantage pour se séparer de 100 consoles d'un coup. » L'occasion, comme d'habitude, de saluer le travail exemplaire d'Emo5, de saluer son saint président, mais j'ai trouvé vraiment cette news très intéressante. Et toujours pour rester dans le rétro gaming, je vous conseille, alors je vous mets le lien comme d'habitude, je me répète, mais c'est important de le préciser, dans la description de cet épisode, un superbe dossier sur Skies of Arcadia a été écrit par Régis Monterrain sur JV.com, qui fait toujours des excellents dossiers rétro. Je peux vous dire qu'il rapporte du lourd, il a eu les contacts qu'il fallait, et il vous rapporte vraiment quelque chose d'inédit sur Skies of Arcadia, qui est un RPG Dreamcast cher à mon cœur, et je suppose qu'il l'a marqué bon nombre d'entre vous. C'est l'un des jeux que je rêverais de voir remaker. Voilà, un gros dossier Skies of Arcadia, donc le RPG de Sega Dreamcast, qui avait été également porté sur GameCube avec une édition Legend. Je vous invite à aller voir ce dossier qui est vraiment extraordinaire. Donc encore bravo à JV.com, encore bravo Régis pour ce papier-là. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite. Allez, hop, on y va. Bon, vous n'avez pas oublié, il y a une clé Steam à gagner pour Street of Rage 4. Avant toute chose, j'ai envie de remercier, d'habitude je le fais vers la fin de l'émission, mais là j'avais envie, allez hop, de remercier les tipeurs et les patrons là, à ce moment-là de l'émission. Oui, car vous le savez, l'émission a un Tipeee, vous tapez la revue de presse JV Tipeee sur Google et vous retrouvez rapidement la page. Il y a aussi un Patreon. Merci à celles et ceux qui me soutiennent. Et j'aimerais donc remercier Mopral, Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Neo Calimero, Pipo Letsu, Trifon, Siwididju, Electrotactics, Tophobie, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lynn Nanounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifraise, X Nihili, Carnoct, Lutherian, Azas, Le Coanet, Evolix, JP Madère, l'incontournable Monsieur A. Et du côté des patrons, je remercie à nouveau mille fois Gontran et Tonton Bernard. Quel beau pseudo, Tonton Bernard. Voilà, je voulais vous remercier vraiment pour votre soutien sans faille. Merci, merci mille fois encore à vous. Vraiment, ce soutien fait chaud au cœur. Il y a donc le concours. Avec mon épouse et Natacha, donc on a fait une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, ma vieille chaîne YouTube. J'avais pas mis de vidéo depuis très longtemps. Donc une vidéo où on vous montre juste les deux premiers niveaux de Street of Rage et on vous donne notre avis, puisqu'on l'a fini plusieurs fois déjà. Pourquoi je vous parle de cette vidéo alors qu'il y a le concours? Vous allez vite comprendre. Puisque pour ce concours, pour gagner cette clé Steam de Street of Rage 4, il va falloir me dire quel est le personnage préféré du jeu, donc de ce Street of Rage 4, quel est le personnage préféré de mon épouse Natacha, donc pour ce Street 4. Elle le dit dans la vidéo, elle en parle, elle a vraiment un personnage fétiche. À vous d'aller voir sur la vidéo, le lien de la vidéo est dans la description de cet épisode, de cette émission. Retrouvez donc le moment où elle crie son amour pour son personnage préféré et hop, après, en MP, donc sur le compte Twitter de l'émission, @revuedepresse, j'y vais tout collé, vous me donnez le nom du personnage, donc du personnage préféré de Natacha. Vous avez jusqu'à samedi 20h pour m'envoyer ce message. Et donc, lundi prochain, dans l'émission, j'annoncerai le nom du vainqueur et dans la foulée, je posterai le screenshot du tirage au sort, voilà, qui fait foi, pour que tout soit clair entre vous et moi. Voilà, donc, le nom du personnage préféré de Nat dans Street of Rage 4, c'est dans la vidéo, le lien de la vidéo est dans la description, allez voir ça, et j'attends donc vos MP, et donc je vous souhaite bonne chance. Ils veulent déposer les armes. C'est un papier que j'ai trouvé dans le numéro de début avril de Courrier International. Je vous rappelle brièvement ce qu'est Courrier International. C'est une parution que j'affectionne particulièrement, qui regroupe divers articles venant de la presse étrangère et qui sont traduits en français. Et ça permet d'avoir sur certains sujets, effectivement, un point de vue international. Donc c'est assez enrichissant de voir sur tel ou tel sujet, que ce soit politique, fait de société, en ce moment le Covid aussi, enfin bref, tous les sujets que vous pouvez imaginer, de voir un petit peu quelle est l'analyse de la presse étrangère, quelle que soit sa sensibilité. Ouais, c'est toujours intéressant de voir ça. Et donc là, c'est un dossier que j'ai trouvé intéressant, une traduction donc, que propose Courrier International, donc un article qui s'appelle « Ils veulent déposer les armes », un papier qui à la base donc, a été édité dans un hebdomadaire anglais nommé New Statesman, qui a été un peu me renseigner, donc, qui est d'une sensibilité de gauche et qui est édité chaque semaine à Londres. Voilà, j'ai pu apprendre sur Wikipédia qu'on le surnomme parfois The Staggers, le tourni, en raison des crises, nous dit Wikipédia, qu'il a traversées dans sa distribution et son financement, ainsi que la succession de ses propriétaires divers. Voilà, donc c'est toujours en cours de parution, bien sûr, puisque là je vous rapporte donc une traduction opérée par Courrier International sur un sujet qui est un petit peu sensible, effectivement, là où les joueurs prennent souvent la mouche, c'est sur la violence des jeux vidéo. Alors, vous comme moi, vous le savez très bien que le jeu vidéo n'a jamais eu une offre aussi pléthorique qu'aujourd'hui, et effectivement, les jeux purement violents sont loin d'occuper 100% du terrain. On a une offre qui est tellement diversifiée, avec des jeux qui explorent des gameplays, des thématiques qui sont loin de la violence. Mais ça reste quand même un sujet, qu'on le veuille ou pas. En chapeau de cet article, on nous dit que là, de représenter toujours des corps démembrés et des fusillades à répétition, certains créateurs de jeux vidéo se tournent vers des œuvres plus pacifiques et réfléchies. Alors attention, non pas... À chaque fois, je vais mettre mes petits commentaires, comme d'habitude, vous me connaissez, mais non pas qu'un jeu vidéo violent ne soit pas réfléchi. Ça, c'est mon avis. Je confronte un peu mon opinion à celle du journaliste du New Statesman, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce papier, on a donc des témoignages de créateurs de jeux, et c'est là où c'est intéressant, au-delà de la critique. Vous avez vu tous ces jeux violents, etc., The Last of Us Part 2, c'est une vraie boucherie, visiblement. Bref, là, on a le ressenti des créateurs, et ça, je trouve ça très, très intéressant. Donc, le papier nous dit, je le cite, le nom d'Alex Hutchinson ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est pourtant lui qui est à l'origine de certains des produits de divertissement les plus populaires de la dernière décennie. Les deux jeux qu'il a réalisés, Assassin's Creed 3 et Far Cry 4, ont été vendus à plus de 20 millions d'exemplaires. Mais l'an dernier, Alex Hutchinson m'a confié, c'est le journaliste donc qui nous parle, m'a confié qu'il en avait, je cite, « assez de faire des jeux tournant autour de meurtres ». L'article nous dit qu'il n'est pas un cas à part, et de nombreux développeurs donc ont indiqué aux journalistes leur envie de faire des jeux moins violents. Aucun n'a cependant suggéré de faire disparaître les combats. Néanmoins, ils sont nombreux à penser qu'en renonçant à la violence, les jeux vidéo pourraient raconter des histoires plus enrichissantes au public, toujours plus vastes, auxquelles ils s'adressent. Donc je refais mon petit commentaire, ce qui est le cas avec énormément de jeux. Mais comme je vous le disais, ce qui est important là, c'est le point de vue des développeurs. Donc, l'article poursuit en nous disant que les développeurs parlent toujours de leur média comme d'un média qui cherche ses marques. Selon Rami Ismail, très connu, cofondateur du studio indépendant néerlandais Vlambeer, je ne sais pas si vous suivez sur les réseaux sociaux, mais c'est une parole qui compte dans le milieu. Donc il nous dit que la violence est en partie un vestige des premiers temps des jeux vidéo. Voilà, donc là on nous fait un petit historique de l'évolution du jeu vidéo, etc. Donc ça, je vais pas faire l'affront de vous rappeler tout ceci. On nous rappelle l'hyperviolence du jeu Manhunt en 2003, Postal 2, etc., etc. Mais donc toujours selon Rami Ismaël, cette phase d'adolescence du jeu vidéo, à l'instar du théâtre du Grand Guignol et du cinéma gore des années 70, était quelque chose que le secteur avait besoin de faire sortir. Désormais, il nous dit, je cite, « les créateurs commencent tout doucement à s'en rendre compte que nous façonnons la manière dont les gens voient le monde ». Il dit, en outre, je le cite à nouveau, « si l'on crée plein de jeux qui visent à abattre des gens du Moyen-Orient, qu'est-ce que cela enseigne aux joueurs sur la population du Moyen-Orient ?» Alors ça, ce sont sur les jeux de guerre, au discours très crasseux. Mais cette responsabilité est ressentie différemment selon les personnes, donc nous dit le papier. Phil Warner, directeur artistique du studio Mediatonic, nous dit, je cite, « je veux maintenant créer des jeux dont je puisse être fier et que je puisse montrer à ma famille, en particulier à ma fille. » Ça, c'est une déclaration qui est quand même assez, assez forte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a un peu interloqué. Avant d'ajouter, nous dit donc Monsieur Warner, directeur artistique du studio Mediatonic, un studio britannique, je précise. Donc, il ajoute qu'il a envie de traiter des sujets controversés, y compris de la violence, mais quand ça se justifie. Et à la question s'il se débinerait ou pas de travailler sur un jeu usant de violence gratuite, il dit « je me débinerais sans doute ». Il explique qu'en début de carrière, travailler sur un jeu de combat l'épuisait nerveusement. Pour la série de simulations militaires Opération Flashpoint, avec son équipe, il a dû faire des recherches sur certaines blessures de guerre réelles. Et il nous dit, je cite, « certains artistes passaient leur journée à regarder sur leurs écrans des photos de blessures horribles. » Alex Hutchinson admet également que la nature du jeu influe sur l'humeur de l'équipe qui travaille dessus. Ça, c'est vraiment un angle très intéressant de ce papier. Il nous dit, je cite, « le pauvre modéliste qui passe 2 ans assis là à modeler des cadavres profanés risque de garder ça gravé dans sa tête. » Il n'en reste pas moins, nous rappelle le journaliste anglais, que la violence et les armes à feu font vendre. Donc on nous parle de la série Call of, on nous parle du futur The Last of Us Part 2. Un peu plus loin, on nous dit qu'une telle situation offre de nouvelles possibilités aux petits et moyens développeurs qui parviennent mieux, selon Rami Ismaël, à toucher davantage de monde. Il nous dit, je cite, « nous sommes la preuve qu'il existe un public pour beaucoup de ces jeux, donc non violents, et de ce fait, nous facilitons la création d'autres jeux de ce genre. » Donc l'an dernier, nous dit le papier du New Statesman, l'an dernier donc a été marqué par certain nombre de réussites dans ce domaine, notamment le très ludique Outer Wilds, le malicieux Untitled Goose Game, dont je vous ai souvent parlé, sans oublier Disco Elysium, qui raconte l'histoire d'une révolution politique ratée sans montrer de combat. Jack Attridge, le cofondateur du studio britannique Flavorworks, reconnaît que les développeurs indépendants sont de moins en moins tentés de s'appuyer, je cite, sur l'effet assuré des jeux d'action, un secteur où ils se trouvent en concurrence avec des sociétés au budget bien plus important. On nous rappelle qu'il y a quand même des expérimentations, on nous parle de Minecraft, de Tetris, de Wii Sport, il y a plein d'autres jeux qu'on pourra ajouter qui cartonnent et qui ne font pas, qui ne s'appuient pas sur de l'ultra-violence. Il y a un petit côté effectivement caricatural dans les propos du journaliste, mais ça reflète quand même une certaine réalité mise en exergue par les témoignages des développeurs. Donc on nous dit, qu'en janvier dernier, Alex Hutchinson a sorti pour la première fois un nouveau jeu depuis son départ d'Ubisoft en 2017. Donc c'est Journey to the Savage Planet, qui n'est pas exempt de violence. Le joueur porte un pistolet laser et des fruits explosifs servent à dissuader les extraterrestres les plus agressifs, mais il met surtout l'accent sur l'exploration et l'humour. Grâce à cela, son équipe et lui ont trouvé le jeu plus agréable et amusant, aussi bien à concevoir qu'à jouer. Il nous dit, je cite, « on se sent tout simplement mieux quand on peut passer son quotidien du matin au soir dans un monde beau et joyeux ». Et ça pose une question, pour finir avec ce sujet qui est vraiment pertinente, à savoir à quelle hauteur, à quel degré la thématique d'un jeu se diffuse, imprègne un développement. Comment ça imprègne une équipe, en mal ou en bien, comment ça peut créer du dégoût, du malaise ou de l'effervescence. C'est un jeu vraiment beaucoup plus, qui va plus porter dans une violence vers l'imaginaire, vous voyez. Il y a vraiment plein de sujets intéressants, couvre ce papier. Ce serait bien qu'une des rédacs en France se saisisse de ce sujet. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. En tout cas, c'est un sujet que j'avais envie de partager avec vous dans cette émission. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager un maximum dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux même, ce serait plus correct. Partagez, parlez-en autour de vous. Je rappelle que la revue de presse JV est donc disponible vraiment sur la plupart des applis de podcast. C'est vrai qu'avec la situation qui n'est pas facile en ce moment, j'espère que cette émission vous a apporté un petit peu de divertissement, n'est-ce pas ? Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage pour le concours, n'oubliez pas. Je vous souhaite panache et robustesse pour tous ces jours qui arrivent et qui ne seront pas forcément faciles. Et je vous fais de gros bécos et je vous dis à tantôt. Allez, bye bye.